ce nouveau café littéraire qui va parler de dragons, qui va nous parler de dragons donc, avec quatre auteurs. Alors, Robin Hobb, la marraine du festival qu'on ne présente plus, une des plus grandes auteurs aujourd'hui de fantasy aux États-Unis et dans le monde. Bon, tout le monde connaît L'Assassin Royal, la série qui l'a vraiment rendu célèbre. D'autres romans aussi de fantasy urbaine sous le nom de Megan Lindholm. La deuxième série, La Porturier de la Mer. Et puis, la nouvelle série justement sur les dragons dont on va avoir l'occasion de parler aujourd'hui et dans d'autres cafés littéraires. Une série qui personnellement m'a énormément plu. Je trouve qu'il y a une qualité équivalente à la série qu'il a fait connaître, L'Assassin Royal. Souvent, les auteurs, quand ils ont une série forte, quand ils ont construit une carrière, parfois, les suivants déçoivent. On a un recul, un retrait. Ça reste bien, il y a du métier, mais c'est plus ça, comme on dit. Eh bien là, oui, il y a à nouveau une série où on se dit, il y a la même ambition, c'est pas les mêmes personnages, c'est pas la même histoire, c'est pas la même façon toujours de raconter, même si on retrouve le savoir-faire de Robin Hobb, mais là aussi, beaucoup de passion en tout cas. Merci à la marraine du festival que je tenais à saluer. Jusque-là, on se croisait simplement et je suis vraiment très très heureuse de l'accueillir aujourd'hui. Monsieur Mauméjean, vous ne l'avez pas encore eu, mais ça va venir parce que vous étiez nominé pour le prix Imaginal pour Rosée de Feu et à très juste titre parce que c'est un très beau livre. Un livre personnellement que je trouve d'une grande ambition. On va lire des extraits, donc, comme d'habitude, ce qui va nous permettre de rentrer. Et puis un livre qui s'attaque à un sujet pas évident, parce qu'à la fois il y a une connaissance, mais peut-être pas aussi bonne qu'on le croit. C'est le thème des kamikazés, mais des kamikazés dragons, c'est pas tout à fait ce que nous connaissons dans l'histoire. Et puis le grimoire des dragons. Notre Benjamin de la table ronde, Marilyn Veil, qui travaille, elle, c'est une historienne. On va voir pourquoi dans quelques minutes, parce que la question qu'on va tous se poser en lisant le livre de Marie-Charlotte Delmas, Le légendaire des dragons, alors, les dragons, ça existe ou ça n'existe pas? Alors, tout le monde connaît les dragons de Komodo, mais ceux qu'on connaît, ceux qui crachent du feu, ceux qui jettent de l'acide, enfin, les vrais dragons. Quelque part, on ne les a même pas pour le 10e anniversaire aux Imaginales. Et je reconnais là une légère carence de l'organisation. Nous essaierons de faire mieux l'année prochaine. Et quelque part, on n'a malheureusement pas eu la chance de rencontrer Marilyn Veil à temps. Et maintenant, je pense que pour l'année prochaine, je suis optimiste parce que... voilà, je vous lis l'introduction de son ouvrage « Cryptozoologue et mon métier ». Donc déjà, félicitations, parce que c'est quand même un débouché nouveau pour nos jeunes qui, dans une période difficile, parfois cherchent de l'emploi. La cryptozoologie est la science des animaux cachés et inconnus, tels les licornes et les dragons. Parfait. Sont-ils totalement imaginaires ou se cachent-ils dans des contrées lointaines? N'ayant trouvé aucune réponse dans mes livres, ni auprès de mes confrères draconologues, on verra tout à l'heure avec Marie-Charlotte, je suis parti à la rencontre de ces animaux fabuleux. Seulement armé de mes crayons et boîtes d'aquarelles, j'ai gravi volcans et montagnes sportives en plus. Je me suis perdu dans les marécages nauséabonds et les cavernes terrifiantes à la recherche des légendaires dragons. Voici ce que j'ai découvert. Qu'est-ce que vous avez découvert? Dites-nous vite, Marilyn.
Eh bien, pour trouver les dragons, il faut vraiment bien regarder, bien chercher. Et donc, j'ai parcouru... un peu le monde pour découvrir les dragons et rapporter les preuves, n'est-ce pas, qu'ils existent. Parce que comme la cryptozoologie, c'est le monstre du Loch Ness, c'est le Yeti, ce sont des créatures, on y croit, on n'y croit pas, chacun fait son opinion là-dessus. Voilà.
En tout cas, voilà un grand soulagement. Les preuves sont dans l'ouvrage, le Grimoire des dragons, aux éditions Les Petites Vagues, un éditeur alsacien. Mais elle ne s'est pas arrêtée là. On aura l'occasion d'en reparler sans doute peut-être l'année prochaine, peut-être un peu cette année. Elle travaille aussi sur les loups-garous. Vous voyez à quel point c'est une professionnelle qui n'hésite pas à prendre des risques. Absolument. Alors, Marie-Charlotte, vous avez quand même l'air, d'après le titre, d'être plutôt, malgré les preuves qu'on vous rapporte, vous n'aviez pas eu contact, j'imagine, avec Marilyn. Pour vous, c'est plutôt le côté légendaire qui vous attire. Alors, voyons ça. J'ai cherché, alors, premier reproche. Franchement, Marie-Charlotte, vous êtes réputée, vous êtes sérieuse, on vous faisait confiance. Vous n'avez même pas réussi à nous trouver un dragon vosgien. Même pas un dragon vosgien. Alors, franchement, est-ce que vous avez bien cherché? Est-ce que vous ne pourriez pas nous en trouver un tout petit du côté d'Épinal? C'est bien ce que je disais. Enfin bon, un petit extrait. Parmi les disciples de Saint-Pierre était Saint-Clément, surnommé Flavius, consul romain, beau-père de Saint-Clément le pape. Envoyé par Saint-Pierre avec d'autres disciples pour annoncer l'évangile dans la Gaule belgique, il arriva à Metz et y reçut le meilleur accueil chez un habitant de la ville. Son hôte lui ayant demandé avec politesse qui ils étaient, d'où ils venaient, lui répondit « Nous sommes les serviteurs de Jésus-Christ, nés de Dieu le Père, avant le temps et dans le temps de la Vierge Marie pour le salut des hommes. » Lorsque l'hôte eut entendu ces paroles et les discours des autres saints voyageurs, il replie « Vous avez très bien parlé, si vous démontrez par vos actions la vérité de ce que vous dites, j'avoue que votre Dieu vous a véritablement envoyé ici pour notre salut et qu'il ne pouvait pas mieux choisir le lieu et le moment, car tout le pays, et surtout cette ville, si puissante, si belliqueuse et si riche, sont hélas tellement dépeuplés par l'horrible fléau qui nous désole que déjà près de la moitié des habitants et des animaux à leur usage ont succombé dans cette affreuse calamité. Il y a dans cette ville des arènes construites en forme d'amphithéâtre par l'empereur Auguste. » Et voilà les révélations. Là habite avec ses petits un dragon d'une grandeur monstrueuse. Marie-Charlotte, dites-nous en plus.
Plus sur quoi? Sur le Graouli?
Bien sûr, puisque vous n'avez pas réussi à nous trouver un dragon vosgien.
Non, mais ce texte-là, comme d'autres qui figurent dans ce légendaire, concerne en fait des textes chrétiens, des textes de saints sauroctones, comme on les appelle, c'est-à-dire de saints qui vont lutter et être victorieux sur des dragons, très souvent simplement en posant leur étole sur le cou du dragon. Alors on en a une quantité très importante dans la légende dorée et ailleurs, et c'est simplement la reprise par les chrétiens d'anciens mythes païens et d'anciens mythes justement de héros vainqueurs de dragons. Mais je voudrais répondre à la question, les dragons ont-ils existé, puisque c'était ça la question du départ. Eh bien je vous dire oui bien sûr. Mais pas sous la forme qu'on leur connaît actuellement. Oui, puisque dracon, en grec, ça veut dire serpent. Et c'est un terme qui recouvrait la totalité des serpents. Serpents monstrueux, serpents venimeux, venin, soufre, feu. Ça viendra de là. Donc oui, les dragons ont existé, mais non pas sous la forme qu'on leur connaît. Voilà. Et après, on expliquera pourquoi peut-être ils ont eu cette forme-là. Et pourquoi des historiens, par exemple, et je pense à Hérodote au 5e siècle avant notre ère, qui dit qu'il va dans la ville de Buto en Basse-Égypte, alors il dit « je vais en Arabie ». Et là, je trouve toute une série d'ossements de dragons, des ossements d'ailes membraneuses de dragons, des ossements d'épines de dos, voilà. Alors, on peut quand même supposer que dans l'Antiquité, comme aujourd'hui... les personnes étaient tombées, enfin des personnes étaient tombées sur des ossements d'animaux préhistoriques, qu'ils ne savaient pas ce que c'était, et que cet être qu'on appellera après dragon, qui prendra un tas de formes d'ailleurs, parce que le dragon qu'on voit sur la porte d'Ishtar à Babylone, par exemple, dédié à Marduk, n'a rien à voir avec les dragons ailés que l'on peut retrouver. Voilà, donc je pense que cette La rencontre des ossements un petit peu partout a été beaucoup pour la création de cet animal qui, ceci dit en passant, je termine là-dessus, n'est pas plus monstrueux pour les voyageurs que l'éléphant, par exemple. C'est-à-dire que nous, aujourd'hui, on est habitué à voir des éléphants, des girafes, mais il faut se remettre dans l'esprit de l'époque et de ces gens qui voyageaient dans des pays nouveaux, ce qu'ils appelaient l'Inde à l'époque, l'Arabie, etc., et qui voyaient des animaux qui découvraient des animaux qui leur semblaient absolument merveilleux. Et franchement, l'éléphant, c'est pas moins merveilleux pour eux que le dragon pour nous aujourd'hui.
Eh bien, une autre variante de dragon... Rosée de Feu, Xavier Mauméjean, le roman. Proche par ses caractéristiques du crocodile et des reptiles volants, le dragon est un ovipare appartenant à la classe des tétrapodes. Les pattes postérieures sont puissantes et les antérieures petites. La variété japonaise a 3 doigts, munis de griffes contre 4 pour la chinoise. Ses ailes, à nervures ou membranes, sont actionnées par un système nerveux indépendant qui commande aux muscles insérés dans la crête. Sa voilure lui permet de voler et capte la chaleur solaire. De plus, les ailes sont souvent ornées de motifs, comme pour le papillon. Ce qui le rend séduisant lors des périodes nuptiales ou menaçant quand un rival s'introduit dans son espace aérien. Les pilotes ennemis ont d'ailleurs pris l'habitude de peindre les mêmes dessins sur leurs appareils. Son épiderme écailleux tient lieu de blindage et peut encaisser sans trop de mal des balles de 12 mm7. Les systèmes respiratoires et sanguins du dragon jouent aussi pour beaucoup dans sa maîtrise aérienne. Suite au cataclysme survenu il y a des millions d'années, les dragons n'ont survécu qu'en se réfugiant dans les marécages ou les océans. Ces milieux pauvres en oxygène les ont contraints à développer leur sac pulmonaire. La créature a 2 poumons en forme de soufflet qui s'actionnent sans mouvement des côtes. Ils sont alimentés par le plancher buccal qui capture l'air en hauteur ou la pipe à la surface de l'eau. De plus, le dragon est doté de vessies sustentatrices qui sont d'anciennes vessies natatoires. Elles lui permettent de s'élever jusqu'à un plafond d'environ 10 000 mètres, performance utile au pilote pour peu qu'il se munisse d'un masque respiratoire. À l'instar des mammifères, des oiseaux et peut-être même de certains dinosaures, le dragon est un animal à sang chaud. Cette caractéristique lui a valu de subsister durant l'ère glaciaire. Il est homéotherme, sa température demeure constante et assez élevée aux alentours de 40 degrés centigrades, quelles que soient les conditions extérieures ou pertes de chaleur résultant de son feu. Son cœur possède 4 chambres, à nouveau comme pour les mammifères, mais aussi les crocodiliens. L'oxygène passe dans le système sanguin, qui véhicule également de l'hydrogène généré par les globules rouges dans toutes les parties du corps. Ce mélange contribue au vol et, associé au reflux de méthane produit par la masse gastro-intestinale, il permet de cracher des flammes. C'est tout pour aujourd'hui, annonce le sergent Kawasaki. Demain, les aspirants apprendront comment descendre l'ennemi en torche.
Ah ben, dites donc, parce qu'on... voilà, on est dans le vif du sujet, il y a de l'humour, c'est pas évident au début, il y a du tragique, beaucoup, il y a de l'émotion, beaucoup, et on est étonné, quand on lit le roman de Xavier Mauméjean, de voir que c'est un roman qui, bien sûr, par le biais du dragon, de la métaphore, d'une reconstruction imaginaire de l'histoire, est un roman, je mets des guillemets, mais néanmoins, on verra pourquoi, à la gloire des kamikazes. Vous savez qu'aujourd'hui, quand on lit dans nos journaux un attentat terroriste, on parle d'un kamikaze. Je trouve ça insultant pour les combattants japonais. Parce que finalement, ces kamikazes, on peut ne pas comprendre, nous occidentaux, cette logique qui est de se transformer en bombe humaine. Mais c'était des combattants et ils attaquaient des militaires. Ça n'a rien à voir avec la barbarie qui... Je crois que ça, c'est important de le dire. Et moi, ça m'a touché aussi pour ça. Parce que même si notre sentiment d'occidental nous amène à ne pas comprendre quelque part, sinon de façon très intellectuelle, comment on peut non pas prendre des risques mais se sacrifier pour devenir une arme, et ça c'est certainement lié à la tradition japonaise, et je pense que c'est ce qui peut fasciner un romancier. Je crois que comparé encore une fois à des gens qui vont mettre une bombe dans un marché, je crois que quand même c'est pas tout à fait la même chose. Alors est-ce que c'est aussi cette idée là parce qu'on sent une sorte d'émotion par rapport au Japon chez vous, Xavier Mauméjean, d'où ça vous vient?
Ben, en fait, je crois que ce roman est celui de qui m'a le plus touché de tous les romans que j'ai écrits, parce que j'ai travaillé pendant 4 ans avec une famille japonaise qui était concernée doublement par le sacrifice, puisque le grand-père de mon interlocutrice est mort en Chine et son grand-oncle a plongé en tant que kamikaze. Alors il faut donc c'était très très intense. J'ai passé des après-midi avec une dame magnifiquement digne qui m'expliquait les horreurs commises par les Japonais, mais aussi les horreurs connues par la suite par les Japonais. Et je pense que le dragon est une sorte de nécessité dans ce roman, parce que d'une part on parlait d'événements authentiques et terribles. Ah, il faut savoir que le terme kamikaze n'est jamais utilisé par la marine japonaise pendant la guerre, c'est tardif, D'autre part, il y a notamment des unités combattantes qui ont refusé d'être kamikazes. Et ça c'est très bien passé. Leur décision a été acceptée. Donc il y avait tout ce matériau très dur humainement à vivre. Et il y avait les dragons. Et les dragons, c'était une sorte de bouffée légendaire, merveilleuse, que j'entraînais. Puisque le roman allait beaucoup se passer dans les airs, il fallait que j'associe les deux constantes japonaises importantes qui sont la conservation de la tradition et l'intérêt pour la modernité. Et donc le dragon semblait être la jonction entre les deux. Et à l'inverse, les bombardiers B-29 américains apparaissent, notamment du point de vue d'un petit garçon japonais de 7 ans, comme des créatures terrifiantes et fantastiques qui reviennent chaque nuit. Et pour associer cet élément ultra réaliste de l'histoire et cet élément légendaire du dragon, il fallait que le dragon lui-même soit le plus réaliste possible, d'où ses descriptions de manuels de mécanique, de dragon, de telle manière à ce qu'il soit rapidement oublié. Ils font partie du quotidien japonais de ce monde, à tel point que l'un des pilotes va s'attacher à son dragon, qui à un moment va être blessé, et son camarade, son coéquipier, va lui dire « Mais enfin, ce n'est pas bien grave, ce n'est qu'un dragon ». Et donc je voulais justement que le dragon soit effacé en tant que créature légendaire pour faire apparaître le terrifiant et le merveilleux dans la technologie des bombardiers.
Autre écrivain, autre dragon. Le soleil était assez haut pour que ses rayons obliques puissent passer par-dessus les hautes branches des arbres et toucher les cocons sur la grève. Il ne faisait pas exceptionnellement chaud pour un jour d'été, et pourtant certaines coquilles avaient commencé à fumer sous la chaleur. Timara porta son attention sur l'énorme cocon à sa verticale. La vapeur montait jusqu'à elle, empreinte d'une puanteur reptilienne. Elle pinça les narines et continua de regarder, en extase. À ses pieds, le bois sorcier de la coquille perdait sa solidité. Timara connaissait bien ce matériau. Pendant des années, son peuple s'en était servi comme d'un bois extrêmement résistant, bien plus que le bois le plus dur. On pouvait y émousser une hache ou une scie en une matinée. Mais à présent, le bois gris argent du cocon s'amollissait, fumait, bouillonnait et en fondant, prenait la forme de la créature immobile qui l'abritait. Soudain, la créature eut un sursaut, puis s'agita vivement. Le bois sorcier se déchira comme une membrane. L'être squelettique absorbait le cocon liquéfié, et sous les yeux de Timara, la chair maigre se remplit tandis qu'elle prenait des couleurs. Le dragonneau était plus petit qu'elle ne s'y attendait, au vu de la taille de la coquille, et d'après ce qu'elle savait de Tintaglia. Un nuage de vapeur à l'odeur désagréable monta jusqu'à elle, puis la tête camarde d'un dragon émergea du cocon fondu. Éclosion. Les dragons étaient des serpents, ils remontent un peu comme des saumons, et puis ils s'enfouissent, ils hibernent, ils éclosent. C'est le rythme de la vie dans ce monde, cette nouvelle série de Robin Hobb, Les Cités des Anciens. Et je vous ai lu le premier volume paru en France, Dragons et Serpents. Ce qui est frappant dans le livre de Robin Hobb, c'est que ces dragons ne sont pas comme on les attend, puissants, forts, impressionnants. Mais tous ces dragons ont un problème, une aile qui ne va pas bien, ils sont plus petits, ils n'arrivent pas à cracher du venin, enfin bref, ils sont tous handicapés d'une certaine façon, tous souffreteux, tous frappés d'une difficulté. Ce ne sont pas des dragons triomphants, mais des dragons menacés. Donc il va falloir les prendre en charge, parce que dans ces sociétés, il y a un accord entre les hommes et les dragons. Mais j'en dis pas plus. Pourquoi cette idée sur un sujet qui est un sujet flamboyant d'habitude, de partir de dragons en souffrance, en difficulté, avec handicap? Qu'est-ce qui vous a donné cette idée audacieuse, alors qu'on attend un roman de fantasy dès le départ flamboyant, et vous prenez votre lecteur à rebours, et on s'attache tout de suite à ces dragons? Qu'est-ce qui vous a donné cette idée-là, Robin Hobb?
think I like magic that has kind of a biological underpinning to it.
Je crois que j'aime la magie qui a des soubassements de nature biologique.
We have many legends of sea serpents and legends of dragons, and I was sitting by a pond watching dragonflies hatch, and this seemed like an excellent connection to me.
J'étais nous avons beaucoup de légendes concernant les serpents de mer, les dragons. J'étais un jour assis à côté d'une mare et je regardais l'éclosion de libellules, ce qui en anglais se dit dragonflies, et je trouvais qu'il y avait un excellent lien.
So to make the connection was an irresistible temptation, and to take this to a story. The reason the dragons in the story are not as they expected to be has to do with the serpents that preceded them, that were too long in serpent form. So I thought to take dragons and look at them when they are vulnerable would be an interesting way to begin a story.
Donc établir ce lien a été pour moi une tentation irrésistible. La raison pour laquelle est donc une bonne base pour une histoire. La raison pour laquelle les dragons de cette histoire ne sont pas ce qu'on attend, c'est que les serpents qui les ont précédés ont passé trop de temps sous forme de serpents. Et je trouvais intéressant de prendre l'image du dragon et de les étudier selon l'angle où ils seraient vulnérables et pas du tout justement triomphants. Et je pense que c'était une façon intéressante de démarrer cette histoire.
I think it's fascinating that all of us are looking at dragons from the perspective of biological possibility.
Je trouve fascinant que nous tous autour de cette table on considère les dragons selon un point de vue biologique, comme s'ils étaient véritablement possibles.
Ils sont possibles, et dans la réalité japonaise reconstruite, dans cette uchronie fantastique, dans cette fantaisie uchronique, puisque c'est un peu aussi un mélange des genres, peut-être, ce roman de Xavier Mauméjean. Un autre extrait. J'ai remporté ma première victoire lors de mon premier combat, mais comme je n'avais pas respecté les consignes, le chef m'a sévèrement réprimandé. On pourrait croire que l'orateur appuie sa déclaration d'un clin d'œil. En fait, son œil droit est mort. Personne au Japon n'ignore ce qui est arrivé à Saburo Sakai. Pour l'entendre, le capitaine de Bashai a fait le trajet sous la pluie jusqu'au district de Ginza. Avec d'autres officiers et journalistes aux accréditations militaires, il se tient debout face à l'estrade dressée dans le hall du grand magasin Matsuya, écoutant le dernier samouraï. Ce n'est pas qu'une formule. Saburo Sakai est issu d'une longue lignée de guerriers. Désargenté, sa famille a vécu l'existence de fermier. Il n'a pas fait de longues études. À 16 ans, Saburo s'est engagé dans la marine impériale. D'abord canonnier de tourelle, il a intégré une formation de pilote malgré deux échecs à l'examen, ce qui ne l'a pas empêché de sortir premier de sa promotion. La personnalité de Sakai intrigue Obashai. S'il n'avait pas fait d'autre choix, le capitaine aurait pu lui ressembler. On l'oublie, mais celui qui est révéré par tous les pilotes s'est parfois opposé à sa hiérarchie. Comme pour l'histoire des repas et du tabac. Longtemps, les sous-officiers mangeaient toujours la même chose et il leur était interdit de fumer. Un jour, Sakai ordonna à son ailier de voler de la nourriture aux messes des officiers et il autorisa ses hommes à fumer. Depuis, tous les pilotes ont droit au même régime. L'as de l'aéronaval est un individualiste, et ses initiatives concourent au bien de l'ensemble. Obayashi comprend et respecte cela. J'ai combattu en Chine, poursuivit l'intervenant. Et puis quand la guerre s'est engagée contre les Américains, on m'a transféré aux Philippines. Après, j'ai été muté aux Indes orientales néerlandaises. Nous avons taillé en pièces les appareils de la RAF, mais ce n'était que des pigeons d'argile face à nos rieux. La campagne de Java était une simple promenade, rire dans l'assistance. Saburo Sakai demeure un moment silencieux, comme pour marquer les faits. Bashai l'observe et voit qu'il n'en est rien. L'esprit du samouraï est déjà ailleurs, voguant dans des cieux moins cléments. Son visage devient grave, il reprend. La suite a été plus difficile, la bataille de la mer de Corail, puis Midway. Mais le pire de tout a été Guadalcanal. Les journalistes cessent de prendre des notes. Ce n'est pas pour rien qu'on a surnommé l'île le cimetière des pilotes de chasse. Le 7 août 1942, jour où les Américains ont débarqué, je totalisais dans les 3000 heures de vol. La plupart sur un Ryu 00, une bête fiable, originaire des fonds marins d'Okinawa. Je me suis dit que la journée commençait bien après avoir abattu un 8-4. Plus tard, j'ai appris que c'était celui du lieutenant Sutherland. Il est parvenu à sauter en parachute et s'est bien rattrapé depuis. J'estime le lieutenant comme on doit le faire d'un adversaire honorable. Dans ce texte, pour connaître un peu la guerre du Pacifique, beaucoup de faits historiques réels et la petite divergence, et puis le retour au comportement des Japonais, car pour nous, avec l'histoire occidentale, on connaît la réelle barbarie qu'ont pu utiliser les troupes japonaises à l'encontre de prisonniers et de civils. Mais on oublie l'autre bon, le bon côté de ce mauvais côté, qui est aussi le respect pour ceux qui combattent, une certaine estime, en fait une sorte de vision chevaleresque qui nous vient quasiment des époques médiévales japonaises. Je me trompe, Xavier Mauméjean ?
Oh bah c'est tout à fait ça, et c'est le grand paradoxe, notamment de la marine japonaise qui avait conservé beaucoup de ces principes chevaleresques, parce que une bonne part des horreurs qui ont été commises, c'est pas l'armée de terre, c'est en Chine. La marine est très différente et c'est une... Bon, déjà, le phénomène kamikaze est inventé par la marine et ce sont tous de très, 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 très jeunes pilotes. Il faut savoir que, par exemple, un vieux, quelqu'un qui est surnommé le vieux, a 32 ans. Il est déjà colonel parce que tous ceux qui l'ont précédé sont morts, et ce sont tous des fans de baseball, et ça aussi c'est authentique. Les grandes discussions, les grands jeux entre deux missions suicides, c'était de jouer au baseball, et l'un des grands regrets, là aussi c'est authentique, c'est d'avoir pas pu suivre les championnats de baseball américains. Et par exemple, le passage que vous avez lu sur Saburo Sakai, et déjà Saburo a existé, et tout ce qui est décrit là, à part le dragon, est authentique. Saburo, c'est ce qui est de plus fascinant dans l'âme japonaise. C'était un individu et un individualiste qui était très dur à accepter les ordres, etc., mais dont justement le caractère individuel était au service de la collectivité. Et c'est toute cette richesse japonaise, cette complication, le fait que c'est d'essayer de comprendre comment nous ne pourrons jamais comprendre le Japon.
Et la façon peut-être de le comprendre pour un occidental, c'est d'écrire un roman de fantasy.
C'est effectivement d'écrire un roman de fantasy et d'aller jusqu'au bout, c'est-à-dire que l'équivalent d'Hiroshima ou de Nagasaki est aussi un phénomène de fantasy. C'est le Maru Ryu, le dragon primordial, qui tout simplement lâche un œuf. Tout était lisible à travers la fantasy, parce qu'il y avait aussi une pudeur, c'est que je ne suis pas japonais, et autant il avait pu être facile à une époque d'écrire sur Babylone en n'étant pas babylonien, autant j'avais une difficulté à écrire avec le Japon, d'autant que j'avais toujours ce regard qui était à la fois amical et attentif de cette famille japonaise qui m'a aidé, auquel d'ailleurs en ce moment je pense beaucoup.
Très beau livre, Rosée de Feu, et on va enchaîner sur un tout à fait différent, mais là aussi un extrait de très beau roman, de la belle série de Robin Hobb qui démarre vraiment très très fort. Une demi-journée à peine s'était écoulée avant qu'il ne perçût son agonie, bien sûr un dragon. Il hurlait non pas pour les appeler mais pour exprimer sa fureur. Des humains l'avaient attaqué, il n'y avait pas de doute là-dessus. En l'entendant mourir, deux autres dragons, Calo et Ranculos, avaient foncé sur sa piste, non pour l'aider ni le venger, mais pour récupérer sa carcasse et la dévorer, comme c'était leur droit. Ils avaient regagné la berge le soir, même sans rien dire de ce qu'ils avaient fait, mais Shintara avait son idée. Tous deux portaient l'odeur du sang humain, en plus de celle de Gersok. Ils avaient dû tomber sur des hommes en train de massacrer leurs compagnons, et ils les avaient inclus dans leur festin. Elle n'y voyait aucun mal. L'homme qui osait s'en prendre à un dragon méritait de mourir, et une fois mort, à quoi servait-il si nul ne le mangeait ? En quoi laisser les vers en faire leur pitance était-il plus acceptable ? Tous les dragons savaient parfaitement qu'il valait mieux dissimuler les traces de telles rencontres. Les humains avaient beaucoup de mal à cacher leurs pensées, et les grandes créatures percevaient clairement la colère et la rancœur que certains éprouvaient à leur endroit. Apparemment, ils préféraient illogiquement voir leur mort dévorée par les poissons plutôt que laisser les dragons profiter de leur chair. Quelques jours plus tôt, un groupe d'entre eux avait livré la dépouille d'un de leurs proches au fleuve. Cintara s'était enfoncée dans l'eau et avait suivi le paquet lesté et enveloppé d'un drap jusqu'à ce qu'il coulât. Elle l'avait alors rattrapé pour le tirer sur la rive, loin des regards, et l'avait dévoré, y compris le suaire. À son retour, devant l'affliction des humains, elle avait cherché à les apaiser en niant s'être repu du cadavre, mais ils ne l'avaient pas cru. Elle n'avait pas compris leur réaction. Si le corps avait atteint le fond du fleuve, poissons et vers l'eussent réduit en morceaux infinitésimaux pour s'en nourrir, alors qu'en le mangeant elle-même, elle avait préservé la minuscule réserve de souvenirs de l'humain. Certes, la plupart d'entre eux n'avaient aucun sens pour elle, et la femme n'avait vécu que le temps d'un souffle, à peine 50 saisons. Néanmoins, une partie d'elle survivrait. Les humains jugeaient-ils préférable qu'elle servît seulement à nourrir une génération de perches? Quels imbéciles! Est-ce qu'avec l'humour aussi, est-ce que, au-delà des dragons et des humains, est-ce que c'est pas aussi une façon de nous faire réfléchir sur la façon dont on peut voir les autres, un autre pays, une autre couleur de peau, une autre façon d'être? Est-ce que le thème de votre nouvelle série, c'est pas finalement la conquête du courage, la conquête de la liberté pour les dragons et ceux qui les accompagnent, mais aussi l'acceptation de la multiplicité des différences?
To some extent, it would be the acceptance of diversity, but I wanted to really think of the dragons as a very large, predatory, meat-eating animal that's at the very top of the food chain. Something that would have the same sort of arrogance and beliefs about the world that humanity has, where we do not stop to think very often about is the world entirely for our use, or are we supposed to share it with the other creatures that live here? The dragons share our attitude about, well, of course the world is for me, and everything in it is mine to use as best suits me. And don't be silly if you think you own a piece of land, you think you own animals walking on it, that's a foolish idea, because they are here mostly for the use of dragons.
Dans une certaine mesure, oui, il y était question justement d'acceptation de la différence et de la diversité. Ce que je voulais surtout faire, c'était de considérer le dragon comme un très grand prédateur carnivore qui se trouve au sommet de la chaîne alimentaire et qui aurait le même genre de croyance arrogante que nous, les humains, avons concernant le monde. Et auquel on ne réfléchit pas vraiment, c'est-à-dire de considérer que le monde est pour notre seul usage. Est-ce que le monde est pour notre seul usage, ou est-ce qu'on doit le partager, est-ce qu'on doit essayer de le partager avec les autres créatures qui l'habitent? Les dragons partagent notre attitude où nous considérons que le monde est pour nous et pour notre usage, et pour notre usage de la meilleure façon qu'on le souhaite. Les dragons disent en un sens aux humains: vous pensez que vous détenez un lopin de terre, ne soyez pas, et que vous pensez que vous détenez les animaux qui s'y trouvent, ne soyez pas stupides, tout cela n'est que pour le seul usage des dragons.
Alors, pour mieux les comprendre, lisons Xavier Auméjean et Robin Homme, mais aussi voyons les spécialistes. Le dragon, petite anatomie des dragons, selon Marie-Charlotte Delmas. Le dragon des naturalistes. Pour présenter les différents traits de l'anatomie du dragon, j'aurais pu, à la façon de certains naturalistes, établir une classification du type. Serpent géant terrestre, serpent marin, serpent ailé, dragon aptère, sans aile, dragon volant, marin. Mais le dragon est avant tout un animal hybride dont l'image se construit au fil du temps. De l'ophidien géant de la culture gréco-romaine à celle du saurien ailé qui nous est aujourd'hui la plus familière. Le découpage entre serpent et dragon aurait entraîné de maintes répétitions, la plupart des éléments étant communs à plusieurs types. De plus, l'emploi des termes serpent et dragon varie selon les traductions et les interprétations, et les auteurs de chroniques ou de récits de voyage ne font pas toujours une distinction très nette entre les deux, ainsi que nous l'avons vu. Voilà la vision de Marie-Charlotte Delmas. Alors je vais vérifier. Est-ce que vous êtes d'accord? Ou est-ce que, comme les universitaires, vous avez des polémiques byzantines entre vous? Voyons donc. Dragon aux pales de feu. Ses écailles sont d'un rouge brillant. Ses cornes ressemblent à une rangée de flammes. Il peut cracher son feu incandescent qui enflamme tout sur son passage. Ce dragon vit dans les profondeurs de son volcan, où il cache farouchement son trésor. La dragonne souffle son feu ardent sur ses œufs. Cela permet de les garder bien au chaud. On n'y avait pas pensé. Eh bien, Marilyn Noël, merci beaucoup. Est-ce que finalement, au-delà de la plaisanterie, est-ce que finalement, vous ne donnez pas, avec vos descriptions, là aussi il y a de l'humour, est-ce que vous ne donnez pas matière aux romanciers à finalement leur dire, si nous qui sommes des spécialistes, des dragons, nous sommes capables de vous proposer autant de modèles, finalement, est-ce que parler de dragons, ce n'est pas une possibilité de laisser l'imaginaire totalement se déployer, parce que finalement, à vous lire l'une et l'autre, on n'est pas si sûr des choses.
Non, non, mais moi, je tiens à dire que je n'ai pas cette capacité d'inventer et que quand je fais la petite anatomie des dragons de l'Antiquité, c'est-à-dire essentiellement celui qui va en parler le plus, c'est Pline, mais Pline et son histoire naturelle vont hanter les scientifiques jusqu'à la Renaissance. Il va servir de référence. Bon, ce qu'en disent les anciens... Jusqu'aux scientifiques de la Renaissance, puisque finalement, à la Renaissance, les Ambroise Paré, les Androvaldi, etc., eux croient aux dragons. Et ils croient et pensent qu'ils sont sous la terre, etc. Donc, et vont faire, et là vont apparaître les premières images, les premiers dessins de dragons selon nature. Alors, selon nature, la plupart du temps, ils ne les ont pas vus, mais on leur a raconté que. Voilà. Ce qui a fait d'ailleurs les délices d'un certain nombre de marchands qui fabriquaient des dragons à partir de raies et d'ailes de raies, et ils faisaient des basiliques. Parce que si on ne croyait pas aux grands dragons, en France et en Europe de manière plus générale, jusqu'à la fin du 19e siècle et même au début du 20e siècle, on croyait toujours en de petits dragons qui étaient les vouivres pour la Franche-Comté en particulier, mais les basiliques, et on a une histoire, je ne sais pas si elle est dans le bouquin, mais on a une histoire au début du XXe siècle, le grand puits de Marseille est bouché, on envoie des puisatiers pour déboucher ce grand puits dans lequel doit y avoir tout un tas de saletés, le puisatier descend, il meurt. Et panique, évidemment, la première solution là, qui vient aux gens, c'est il est mort, il y a un basilic. Voilà. Il y a un basilic. Alors, ceci dit, le basilic, c'est très simple. Pour le tuer, il faut juste emporter un miroir, parce que comme il tue avec son propre regard, si on lui balance un miroir, il est assez bête pour se regarder et se tuer tout seul. Voilà. Mais jusqu'à la Renaissance et après, jusqu'au 19e siècle, on croit en des formes de dragons qui, je le répète, le dragon, c'est un animal hybride qui est fait effectivement du crocodile, des pattes de lion, de la queue du serpent, etc., etc. Donc non, je n'ai rien inventé. J'ai laissé les autres parler.
Marilyn, vous avez bien sûr du texte que vous avez rédigé, mais vous avez aussi beaucoup de croquis, beaucoup d'illustrations. Finalement, quand on va dans des pays lointains pour ramener des preuves, à défaut de ramener une dent de dragon, à défaut de ramener des photos, parce que je crois que vous avez perdu votre appareil photo, voilà, donc vous avez ramené des croquis. Pourquoi finalement, et là ma question est sérieuse, pourquoi finalement vous avez eu envie d'écrire et surtout de dessiner sur les dragons ?
Ben, c'est une grande histoire d'amour, parce que toute petite déjà, j'aimais beaucoup déjà tout ce qui était fantastique, tous les films de Tim Burton, les films comme Légende, tout ça, Willow, ça a vraiment fait amplifier mon amour des dragons. Et quand j'étais petite, j'ai détesté tout ce qui était poupée. Moi, j'aimais jouer avec les dinosaures, c'était une véritable passion. J'adorais les dinosaures, ils me fascinaient. Et du coup, ben, je trouve que les dragons, finalement, ils sont pas si étrangers aux dinosaures. Et puis, voilà, j'ai toujours aimé les créatures fantastiques. Et mes autres ouvrages, ce sera sur les loups-garous, les licornes, que j'ai bien sûr rencontré aussi. Et là, je prépare mon voyage en Asie pour rencontrer les dragons asiatiques. Voilà.
Ça nous promet encore des beaux retours d'expédition. Un dernier, parce qu'il va falloir nous quitter, et encore un café littéraire après. Feu. Hideo et ses camarades se frottent le duvet des joues. Ils font cela tous les matins, à peine rentrés dans l'école. D'abord chacun de son côté, puis mutuellement. Ce n'est pas vraiment agréable, mais l'opération est nécessaire pour faire durcir le poil. Ainsi, ils pourront bientôt se raser, devenir des hommes, même si on peut l'être sans avoir rien sur le menton. Après tout, Tatsuo est soldat, il a le visage aussi lisse que celui d'un bébé à qui rien de la vie n'est encore arrivé. C'est ce que dit leur mère, son mari ne veut plus l'entendre. « C'est l'heure !» crie Monsieur Nagyama. L'instituteur vient chercher les garçons, ils le suivent, les trognes en feu, rouges comme des pommes. La classe peut commencer. Même dans la guerre, il y a des enfants, il y a encore des écoles. Et le roman de votre roman, Xavier Méjean, c'est pas que des histoires de guerre, c'est aussi des histoires d'amour et d'émotion.
Oui, mais j'ai voulu bâtir le récit du roman sur trois figures. Un petit garçon de 7 ans, son grand frère qui devient pilote accompagnateur de kamikaze, et le capitaine Obayashi qui met en place la stratégie kamikaze. Et en fait, ces trois personnages correspondent à une forme de théâtre japonaise qui est le Bunraku, et qui en fait est un théâtre de marionnettes animé par trois montreurs. Donc les trois personnages correspondent à trois âges et donc trois points de vue de l'homme japonais en guerre. Mais je voulais dire une petite chose par rapport à l'image et l'imagerie des dragons. Ce qu'on dit par exemple Marilyn et Marie-Charlotte, c'est que il m'est revenu une anecdote qui est très jolie, qui n'a rien à voir avec mon bouquin, mais qui est très jolie. C'est que quand Marco Polo était à la cour de Kublai Khan, on lui avait montré un rhinocéros. Et au lieu d'être épaté, c'est la première fois qu'il voyait un rhinocéros, il avait marqué dans son journal « Aujourd'hui, j'ai vu une licorne, elle n'était point charmante. » Et je trouve magnifique que l'esprit humain puisse comme ça accueillir l'imaginaire et ne pas s'étonner.
Ben, j'aurais prévu quelque chose d'autre, mais je crois que ça nous fait une très belle conclusion. Merci Xavier Moméjean, Robin Homme, Marilyn Veil et Marie-Charlotte Delmas. Vous pouvez donc les retrouver tout de suite sous la bulle du livre pour vous procurer leurs ouvrages et leur demander une gentille dédicace. Rosée de feu, Xavier Moméjean, aux éditions du Bélial. Robin Homme, Les cités des anciens, cette série qui débute très fort avec Dragons et Serpents. Le grimoire des dragons, Marilyn Veil, et puis Marie-Charlotte Delmas, Le légendaire des dragons, aux éditions Fetgen. Marilyn, c'était aux éditions Les Petites Vagues. Merci à tous les quatre.